quand je crée quelque chose de nouveau, bien sûr, j'ai la trouille et j'ai peur. Il y a des femmes qui me disent « Oui, mais tu crées des choses nouvelles, c'est parce que t'es pas trop angoissée de nature, etc. » Je dis « Mais n'importe quoi !» Bien sûr que j'ai la trouille, j'ai peur de créer, de faire des choses nouvelles. Je me dis « Ah, mais si ça plaît pas et si on m'aime pas, il y a toujours ce truc un peu de « Est-ce qu'on va aimer ce que j'offre ?» quoi. Il y a toujours un peu ce truc-là derrière pour moi. Et donc, mais derrière, il y a tellement ce truc d'être aligné. Tu parlais d'alignement tout à l'heure, d'être aligné, de sentir l'énergie, qu'en fait, ça a du sens.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Leslie. Suite à sa maternité, Leslie a souffert d'un manque total de sens dans son travail. Alors qu'elle travaillait dans la communication, dans l'univers de la télévision, elle décide de reprendre ses études et devenir auxiliaire de puériculture. Une rencontre l'amène à découvrir le métier de doula. C'est une révélation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Leslie Lucien.
Bonjour Leslie!
Bonjour Charlotte, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
J'ai eu du mal, j'hésitais entre deux. J'ai choisi des boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles qui sont toutes dorées et qui sont en forme de soleil. Et je les porte beaucoup, ces boucles d'oreilles. Je crois que parmi toutes celles que j'ai, c'est celles que j'aime le plus. Je pense qu'elles sont bien en lien avec mon envie de sans doute rayonner de la joie, de la lumière dans mes partages et dans mes accompagnements en tant que doula.
Génial. Et on va parler aujourd'hui de ton nouveau métier, mais peut-être en introduction, qu'est-ce que c'est que le métier de doula? Parce que c'est pas forcément connu de tous.
Oui. Alors le métier de doula, c'est un métier d'accompagnement. Nous, on accompagne les femmes et plus largement les couples, les familles dans leur temps de devenir parents. Donc c'est un accompagnement qui est non médical, qui est tout à fait complémentaire du suivi par une sage-femme, un médecin, la maternité qui va accompagner la famille. Et nous, on accompagne vraiment dans la durée, depuis le désir d'enfant, parfois dans des projets de désir d'enfant qui se concrétisent pas tout de suite, jusqu'à la grossesse, la présence à la naissance et le postpartum. Donc c'est un accompagnement qui est à la fois, je dirais, émotionnel, puisqu'on est vraiment dans l'écoute, et aussi parfois un peu logistique, puisqu'on va être présente au domicile des familles la plupart du temps pour entendre leur chemin.
Donc du coup, oui, tu te déplaces chez les gens.
Tout à fait. Certaines doulas ont fait le choix d'avoir un cabinet, mais je dirais que la plupart des doulas se déplacent au domicile des familles. C'est aussi ce qui crée ce temps de l'intime, le fait de rentrer dans le cocon familial et d'être présente chez les gens, de s'installer chez elles, d'être présente pendant une heure trente, deux heures de partage. Ça crée aussi cette connexion et ce lien d'intimité dans les échanges.
Super. Bon, ça, c'est ton métier aujourd'hui. Avant que tu deviennes doula, tu as eu une autre vie professionnelle avant. Avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi?
Moi, j'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville. J'ai vraiment grandi dans, je dirais, un petit cocon familial avec ma mère et ma sœur. On était plutôt dans un schéma familial très féminin, avec plutôt un grand matriarcat, je dirais, de mère en fille. Et voilà, une banlieue vraiment plutôt cosy et chaleureuse.
C'était ouf.
J'ai grandi à Hyères, dans l'Essonne.
Ok. Moi, je connais Hyères dans le sud, mais pas Hyères
exactement,
dans l'Essonne.
souvent, on pense à Hyères dans le sud, mais voilà, moi, j'ai grandi au soleil de la région parisienne.
Le fameux. Et quel type de petite fille t'étais quand t'avais 5-6 ans?
J'étais une petite fille très joyeuse. Je pense que j'avais beaucoup d'amis. J'étais souvent beaucoup dans le jeu, dans le partage, dans l'échange. J'étais aussi une petite fille qui se posait beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions sur sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, voilà, plein de questionnements très existentiels déjà très petite. Mais c'est vrai que j'étais plutôt une petite fille assez joyeuse et souriante.
Et tes rêves à cette époque-là, c'était...
Mes rêves de petite fille, c'était, je pense, de devenir chanteuse. J'avais un vrai rêve de petite fille, de sans doute de célébrité, de chant. Voilà, c'était vraiment ça mon rêve. Et puis d'avoir des chevaux aussi. J'avais un rêve, un rêve qui ne s'est pas réalisé et dont je n'ai plus très envie aujourd'hui. Mais voilà, c'était plutôt ça mes rêves de petite fille.
Et au fur et à mesure, du coup, que tu as grandi, c'était tes rêves, comment ça a évolué ?
Ça a évolué. Je pense que j'ai été plutôt une adolescente un peu plus torturée. Je pense que la période du collège, et je le vis en ce moment parce que ma grande fille est en cinquième, donc je commence à revivre cette période du collège un peu challengeante. Donc ça a été une période plutôt compliquée pour moi, dans le lien aux autres, le changement du corps, les changements émotionnels liés à l'adolescence aussi. Donc mes rêves, ils ont beaucoup changé. Peut-être à ce moment-là, j'en avais plus trop, en fait, je pense. C'était une période avec plutôt des questionnements et où tout le monde commençait à dire « Ah, moi, tiens, j'ai envie de faire tel métier. Moi, je voudrais faire tel métier. » Tout le monde commençait à dessiner des choses. Et pour moi, c'était très abstrait, ça. C'était vraiment... ça l'a été assez longtemps, d'ailleurs, de devoir choisir un métier, une profession. Voilà, c'était quelque chose qui était plutôt difficile.
Et du coup, comment ça s'est passé pour toi ?
Ça s'est passé, donc moi j'avais un an d'avance à l'école, donc j'ai passé mon bac quand j'avais 17 ans, et à ce moment-là, c'est un peu le moment des grandes décisions quand même, même un petit peu avant, quand on, à cette époque-là, on choisissait un peu les filières, etc. au lycée, mais moi j'ai choisi un peu une filière générale en me disant, bon, ça ouvre un peu toutes les portes, c'est ce qu'on disait à cette époque-là, il y a 20 ans, et j'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça, et en fait à ce moment-là, j'avais pas trop d'envie précise, professionnelle. Et j'avais un copain de classe qui parlait très bien anglais, dont la maman était notre prof d'anglais. Et je me suis dit, mais c'est génial, Simon, il parle anglais couramment, c'était trop chouette, en fait, de pouvoir parler avec lui. Je l'entendais parler anglais, passer de l'anglais au français avec sa mère dans les échanges, etc. Et je me disais, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Tout le monde veut aller à la fac, faire une prépa. Et moi, en fait, j'ai envie d'aller apprendre l'anglais. Donc à ce moment-là, j'ai un peu par hasard dans un centre d'information et d'orientation qui était lié au lycée, j'ai trouvé un document, une publicité sur un organisme qui s'appelle Programme International d'Échange, PIE, et qui organisait et qui organise toujours, c'est un super organisme, qui organisait des voyages d'échange à l'étranger. Donc on partait pendant un an vivre dans une famille d'accueil à l'étranger, dans un pays de notre choix, et on allait vivre toute cette année à l'étranger dans cette famille et aller au lycée aussi. Donc c'était une vraie envie, une vraie découverte. En y repensant maintenant, je me disais, oh là là, j'avais 17 ans, je me demande si j'avais peur, j'arrive pas trop à me souvenir, en fait, est-ce que j'avais peur. Mais voilà, j'ai eu la chance, ma mère m'a dit, super, t'as envie de faire ça, on te soutient complètement dans ce projet, même si elle pleurait de son côté, de se dire « Ah, ma petite fille,
elle va partir où ?»
pendant... Et donc, je suis partie pendant un an aux États-Unis. Je suis partie, on choisissait pas la destination de départ, enfin, la destination. Et moi, j'ai choisi d'aller aux États-Unis et j'ai été dans une famille qui habitait dans l'Iowa. Alors l'Iowa, c'est vraiment le Midwest américain. C'est pour ceux qui connaissent David Lynch, il a fait un film qui s'appelle The Straight Story, et c'est un monsieur qui est sur un tracteur et qui voyage dans tous les États-Unis avec son tracteur. Et ben moi j'étais là, à côté du tracteur, avec les cochons, dans les fermes. Voilà, c'était vraiment une immersion complète, et j'ai quitté complètement ce que je connaissais en France, et ça a été une expérience formidable pour moi.
Et comment ça s'est passé, le retour en France ? Tu t'es retournée en France, d'ailleurs ?
Oui, je suis retournée en France après cette année. Donc, j'ai vécu vraiment une année complètement coupée de ma famille. On s'appelait une fois par semaine, le mardi après-midi, je me souviens, pour se raconter quelques éléments de notre semaine. Mais bon, il n'y avait pas d'Internet, etc. à ce moment-là. Donc, on était vraiment complètement... c'était une immersion totale. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à vraiment être dans cette immersion et à parler anglais complètement, à rêver en anglais, à vivre ma vie au lycée. Voilà, c'était vraiment formidable. Et quand je suis rentrée, Je suis rentrée en parlant anglais couramment, ce qui était génial, mais j'étais quand même encore un peu paumée parce que finalement, est-ce que c'était une bonne idée d'aller à la fac? Qu'est-ce que j'allais faire? Donc j'ai vu un peu de la lumière dans une fac de droit, je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas. Et donc j'ai commencé à ce moment-là une fac de droit à côté de chez moi. Et au bout d'un mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a aucun sens. J'ai pas du tout envie de faire ça. J'aime pas les cours. J'aime pas l'ambiance. Et je me suis dit je vais bosser pendant un an. Donc cette année-là, l'année de mon retour, c'était en 2000. J'ai travaillé. En fait, j'ai bossé. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai bossé chez Air France en tant qu'agent d'escale commercial au sol. J'ai bossé dans un Franprix où j'accueillais les gens qui venaient. J'ai fait plein de boulots, du démarchage téléphonique, des enquêtes. Voilà, et vraiment, c'était hyper large. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit « Ok, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de parler anglais et aussi d'être dans le commerce, tout ce côté un peu international, marketing. » Je commençais à un peu voir de la lumière à cet endroit-là et je me suis dit « Je vais intégrer une école de commerce. » Et donc, c'est là où j'ai commencé mon chemin, je dirais, plus scolaire et plus classique finalement.
Et du coup, quand tu as intégré l'école de commerce, comment l'a vécu ton entourage ?
Plutôt bien, plutôt rassurée. Je pense que ma famille était un peu inquiète de me voir décrocher du côté scolaire au retour des États-Unis. Surtout que moi, je suis issue d'une famille de profs où voilà, le travail, l'école, c'est quand même assez valorisé du côté de ma famille. Donc il y avait cette inquiétude et donc le fait de me voir un peu rentrer dans le droit chemin, c'était un peu la sécurité et voilà, tout à coup la confiance se remettait un peu en place. Donc voilà, j'ai pu démarrer mon école de commerce et voilà, après c'était plus tracé, j'ai envie de dire.
T'as fait quoi du coup comme école?
J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'école supérieure de gestion, dans une section qui était à l'époque commerce international. Donc c'était un cursus bilingue qui permettait à la fois d'avoir des cours en anglais puisqu'on apprenait tout le marketing en anglais, et il y avait des cours aussi en français. Donc c'était ce côté bilingue, c'était vraiment idéal à ce moment-là.
Et comment ça s'est passé, tes premiers jobs?
Mes premiers jobs, donc j'ai fait pas mal de stages et assez rapidement, je suis revenue à mon rêve de petite fille de ce côté un peu show business, voilà, les paillettes, tout ça. Je pense que c'était un peu mon attrait de la petite Leslie de 5-6 ans dont je te parlais tout à l'heure. Et donc assez rapidement, je me suis dit tiens, j'aimerais bien travailler plutôt dans le domaine de l'audiovisuel. Ça s'est apparu assez vite. Donc j'ai fait des stages dans des chaînes de télé, j'ai bossé un peu chez Paris Première. Enfin voilà, des stages comme ça progressivement qui m'amenaient vers l'audiovisuel, le marketing de l'audiovisuel. Et donc j'ai fait un troisième cycle ensuite à la Sorbonne qui était vraiment un troisième cycle de marketing de l'audiovisuel. Donc mes premiers boulots, ça a été des boulots vraiment en lien avec ça, notamment j'ai eu la chance dans un de mes stages de faire un stage avec une femme, Emmanuelle, qui était enceinte à ce moment-là et qui m'a du coup beaucoup transmis de choses, et donc elle a beaucoup compté sur moi, et donc j'étais vraiment très valorisée dans cette agence dans laquelle j'ai commencé à travailler qui s'appelait Gédéon. Et donc j'ai commencé à être chargée de production, puis chef de projet. Voilà, progressivement j'ai monté un peu la petite échelle de la boîte où j'étais. Et voilà, ça m'a permis de gérer des équipes, d'être en lien avec les clients. Je gérais les briefs créatifs aussi. Donc c'était vraiment une super expérience pour moi.
Et là, du coup, quand tu faisais ce métier, tu te sentais bien? Comment t'étais
Je me sentais bien, je me sentais à ma place, je me sentais assez stressée. C'était une période qui était assez challengeante pour moi, du fait d'avoir à gérer des budgets avec quand même, je dirais, beaucoup d'argent. C'était quand même assez stressant pour une jeune femme. Je pense que je devais avoir 23 ans, quoi, 23, 24 ans à ce moment-là. Et donc, pas mal de stress et à la fois beaucoup de bonheur et beaucoup de joie parce que je travaillais dans une équipe vraiment. Je suis restée assez longtemps dans cette agence et j'ai vraiment été beaucoup valorisée dans ma manière de travailler. J'ai travaillé avec des équipes qui étaient très belles. Donc, il y avait aussi tout ce lien affectif et d'échange, de partage qui était vraiment super. Donc, j'étais à ma place. Clairement, j'étais à ma place. C'était formidable.
Par rapport à cette époque-là.
Ouais, exactement. Mmh. Exactement. Mmh.
Qu'est-ce qui a du coup changé justement le fait que tu n'étais plus à ta place?
Je pense clairement le passage de la maternité. Pour moi, ça a été comme beaucoup de femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui partagent ça, le changement de devenir mère m'a amené beaucoup de questionnements sur le sens de ce que je faisais dans mon quotidien. J'aimais, je m'amusais, c'était vraiment très positif, et à la fois j'avais une partie de moi qui se disait bon, est-ce que finalement, quand t'avais fait des tests psychologiques quand t'étais au lycée sur ce que tu voulais faire plus tard, ça te disait pas que tu pourrais travailler dans le care, dans le soin des autres, etc. Est-ce que tu devrais pas aller chercher à cet endroit-là? Donc ça, je pense, la maternité a révélé des questionnements. Et j'ai pris le temps pendant ma première maternité, donc Léonie est née en 2010 et ma deuxième fille Zélie est née en 2012. Donc ça a été une période où j'allais avoir 30 ans et je pense que c'était un peu un gap, un cheminement qui m'amenait vers OK, il y a eu cette période de vie, 20-30 ans, c'était formidable, je me suis engagée professionnellement, l'audiovisuel, c'était super, mais il y a une autre porte qui est en train de s'ouvrir pour moi. Je sentais vraiment ça.
Et comment ton corps t'a parlé?
Je pense que mon corps m'a parlé de différentes façons. Quand j'ai repris le boulot à l'agence après la naissance de Léonie, j'avais demandé à prendre un 4/5e, donc je travaillais pas le lundi. Donc je me sentais finalement, c'était super, et à la fois j'avais l'impression de devoir faire le boulot que je faisais en 5 jours, de devoir le faire en 4, que quand je partais le vendredi soir, on me disait bon bah lundi il y a le rendez-vous, la réunion, dadada, et moi je disais mais vous savez, le lundi je suis pas là quoi. Donc j'étais toujours finalement dans un espèce de décalage entre ces deux vies, comme si elles pouvaient pas s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc ça c'était de plus en plus difficile, donc je pense que mon corps m'a dit, et mon couple aussi, bien sûr, c'était un échange dans le couple, mais moi, j'ai vraiment poussé qu'on ait un deuxième enfant assez rapidement. Je me disais, bah ok, là, c'est maintenant. Moi, je voulais avoir deux enfants avec mon compagnon, on s'était toujours un peu dit ça. Donc, je me suis dit, écoute, si à un moment, j'ai envie de changer de vie, je sens que bah là, c'est en train de se faire maintenant. Donc, on a vécu le cheminement vers la naissance de Zélie un peu comme ça. Et moi, j'ai commencé un bilan de compétences à ce moment-là. J'ai eu la chance, en fait, dans la boîte où je travaillais chez Gédéon, mes boss à l'époque, ils m'ont dit, mais écoute, t'as envie de faire un bilan de compétences, nous, on va te le financer, ce bilan de compétences-là. Ça nous dira, est-ce que t'as envie de trouver une autre place dans l'agence ou est-ce que t'as envie d'aller ailleurs? Et c'est OK, si t'as envie de vivre d'autres expériences ailleurs, pour nous, c'est OK aussi. Donc, ils étaient vraiment...
Ouais, c'est super intelligent parce qu'en fait, moi, je vois, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, bah non, mais moi, je peux pas en parler et je peux pas en parler à mes employeurs. Mais le truc, c'est que finalement, la conclusion, c'est qu'entre avoir une salariée qui est motivée, qui sait qu'elle est à sa place, ou quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit mais avoir quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est hyper mauvais pour la personne elle-même et même pour l'entreprise, parce qu'au final, forcément, à un moment, ça explose.
Mais c'est exactement ça, ce que tu dis, Charlotte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est que il y avait ce moment où j'osais pas forcément dire est-ce que j'allais en parler de ce cheminement. Et à la fois, le fait d'avoir libéré cette parole-là et d'avoir été entendue, ça m'a vraiment permis de dire ma vérité. Et je pense que de toute façon, j'étais plus à ma place dans cette agence. Je commençais à avoir des pensées plus négatives. J'étais moi qui suis plutôt très positive de nature et plutôt dans un élan d'emmener l'équipe dans quelque chose de positif. Je devenais finalement un peu cet élément qui râle, qui n'est pas content, qui n'a pas assez de vacances, qui n'a pas assez nanana. Tu vois, un peu cet état d'esprit-là. Donc, je pense que tu as complètement raison. C'est important aussi pour le monde de l'entreprise d'entendre ça, que tu ne peux pas garder quelqu'un contre son gré, finalement. Donc, l'accompagner et le soutenir, c'est précieux.
Et puis, c'est prouvé que quand une personne n'a pas de sens, tu rentres dans un engrenage qui est hyper négatif, même si, en effet, tu es une personne qui a envie, qui est professionnelle, c'est plus fort, en fait, que soi. En fait, quand on n'est pas à sa place, on devient moins performant, on a moins envie, on se sent moins en vie. Et donc, du coup, c'est une spirale qu'il faut casser, quoi.
Exactement, exactement. Et c'est vrai...
Oui, vas-y, vas-y.
C'est vrai que le bilan de compétences m'a vraiment permis ça, de mettre en lumière. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien raconter quand parfois j'ai des femmes qui viennent vers moi en disant « Oui, mais est-ce que tu conseilles un bilan de compétences ?» Parce que moi, on m'a dit que c'était nul, que ça servait à rien, etc. Moi, la manière dont je l'ai vécu, enfin, la façon dont je l'ai vécu, c'est que quand j'ai réfléchi à ce bilan de compétences, je savais que j'avais un budget pour le financer et j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré plusieurs intervenants sur ce bilan de compétences. Donc il y avait, c'était plutôt des psychologues d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais vous avez envie d'autre chose, c'est vraiment super, bravo, oh là là, c'est tellement magnifique de vous mettre en lien avec vos envies, etc. » Et il y en a une, elle s'appelait Virginie. Virginie, elle m'a dit « Mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous êtes en train de me dire ? Vous allez quitter un métier où vous gagnez très bien votre vie, vous êtes valorisée professionnellement. À la fin de l'année, on vous donne des primes en vous disant « c'est génial ce que tu fais, bravo, on adore t'avoir dans notre équipe ». Et vous allez quitter ça pour faire un métier où vous savez pas ce que vous allez gagner, vous allez redescendre socialement sur l'échelle sociale. Donc en fait, elle m'a dit un truc qui m'a fait dire « ah mais c'est avec elle que je dois travailler ». Parce qu'en fait, elle est venue gratter, creuser aux endroits qui étaient les endroits finalement douloureux pour moi, où je me dis mais en fait oui, elle a raison, c'est ça mon doute, c'est est-ce que c'est ok de quitter un métier où t'as fait une école de commerce. Il y a vraiment cette vision de, je dirais, de réussite sociale que je portais moi. T'as fait une école de commerce, tu parles anglais couramment, t'as des boulots dans la télé, donc la télé, tout le monde a toujours envie de savoir ce qui se passe là-bas. Donc il y avait à cette époque-là, j'avais tout quoi en fait. Et moi, j'étais en train de remettre ça en question. Et donc cette consultante, elle m'a vraiment aidée profondément à aller chercher en moi pourquoi je voulais quitter. Pourquoi je voulais quitter et pourquoi c'était OK de quitter, en fait.
Ouais, c'est un vrai sujet, tu vois. Enfin, moi, à l'époque, suite à mon burn-out, je me suis dit « OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» J'en avais absolument aucune idée. Et on m'avait dit « Fais un bilan de compétences », mais comme les personnes, finalement, que tu avais rencontrées, moi, clairement, il y a rien qui me parlait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé, en fait, finalement, ma propre méthode pour aider les personnes aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris par rapport à tout ce qui existait, c'est que c'était vraiment orienté très professionnel. Mm-hmm. Et que le truc, c'est qu'en effet, c'est ce que tu dis, c'est que si tu ne sais pas qui tu es, comment savoir vers quoi tu vas. Et d'ailleurs, bon, tu vas nous développer plus ton activité aujourd'hui, mais le vrai enjeu, c'est de permettre aux gens de trouver leur why, c'est quoi leur raison d'être. Mm-hmm. Et une fois que tu as ton why, tu regardes après ton how, qui correspond en fait à ton talent, ta zone de génie, ta singularité. Et c'est après où tu regardes ton quoi qui est ton métier. Mmh. Et le métier, on va en parler, t'en es le merveilleux exemple, c'est que tu n'es pas un métier dans une case, tu es un multimétier que tu as pu façonner par rapport à ton why. Mmh. Et puis après, tu as la notion du where, qui est l'environnement, qui correspond exactement à quel est l'environnement qui respecte tes valeurs, parce que si tu es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, tu seras pas bien. Mmh. Quel est l'équilibre vie pro, vie perso que tu veux? Parce que le truc, c'est que voilà, aujourd'hui tes filles, il y en a une qui est au collège, enfin les deux d'ailleurs maintenant, j'imagine, elles sont au collège.
Ouais, presque CM2, 5e.
et en fait, oui, il y a tes enjeux d'aujourd'hui sont pas ceux de demain, ils sont pas ceux que t'avais quand tes filles étaient petites. Et donc ça, c'est des trucs où il faut arriver à faire évoluer ça parce qu'en fait, le bilan de compétences traditionnel où on te fait passer un QCM et c'est fini. Et clairement, moi, enfin, c'est une de mes grandes fiertés quand je vois des personnes qui se sont jamais fait accompagner ou qui ont déjà fait des bilans de compétences, me dire bah oui, ça y est, je sais pourquoi je fais, et qui ont une énergie à la fin en mode mais évidemment j'y vais parce que c'est sorti de leur trip, quoi.
Bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Je trouve que t'as raison complètement sur aller vraiment chercher quelles sont tes valeurs de vie, comment t'as envie de vivre ta vie en fait, puisque c'est vraiment ça que j'ai traversé. C'était tout à coup, il y avait plus d'adéquation entre ce boulot, bien sûr, où je gardais des choses qui étaient positives, rien n'était complètement négatif, mais j'avais plus cet entrain, et c'est là où tu parlais de burn-out tout à l'heure. Moi, j'ai pas vécu de burn-out, mais je sentais que ça pouvait aller vers ça. vers ce côté négatif qui tourne en boucle où tout à coup tu peux plus te lever parce que t'as plus l'élan quoi en fait. Donc je te rejoins.
Ouais, tu te tues à petit feu en fait. C'est si ça. T'es pas finalement aligné, enfin moi ce que j'ai compris du coup depuis le burn-out, c'est que si t'es pas aligné avec qui tu es, si tu n'es pas à ta place, tu vois le nombre de personnes qui m'ont dit j'ai fait un bilan de compétences traditionnel et puis deux trois ans après. Je suis revenue au même état, même limite pire, parce que avec un côté genre, mais en fait, je vais jamais y arriver à trouver le truc. Je dis, oui, mais si vous pouvez, parce qu'en fait, si vous trouvez votre why, c'est là où ça va vous guider. En fait, c'est comme disait une de mes clientes, t'es sur un bateau, si t'es un capitaine et que t'as pas de cap, ton bateau, c'est comme une coquille vide, quoi.
Tout à fait. Ouais. C'est vrai.
Et donc, qu'est-ce que ça a raconté, du coup, ton bilan de compétences ?
Mon bilan de compétences, il m'a vraiment amené à repenser cette idée de l'intérêt. Quel était, pour moi, pourquoi à cet endroit-là, ça devenait vraiment important de mettre du sens pour moi professionnellement. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes puisque se dessinait un peu cette idée de travailler dans le care. Donc, j'ai rencontré des sages-femmes, des infirmières puéricultrices. J'ai vraiment fait des rencontres multiples, je dirais, autour des métiers du soin. C'était plutôt des métiers du soin, des métiers du médical. Et ça m'a permis de mettre en lumière le fait que moi j'avais envie plutôt d'être dans l'écoute et dans l'accompagnement des familles. Et donc ce qui venait en premier comme métier, c'était le métier d'auxiliaire de puériculture. C'était le premier qui venait. Il venait aussi plus facilement parce que moi j'avais mes filles étaient du coup toutes petites puisque Léonie avait 2 ans et j'étais enceinte de Zélie. Donc j'étais vraiment dans cette phase de j'ai aussi envie de prendre du temps pour être avec mes enfants, de profiter d'elles quand elles sont petites. Il y avait vraiment cette intensité aussi de la maternité avec le tout petit. Et donc je me suis dit, le métier d'auxiliaire de puériculture, c'est un métier où on se forme en 1 an. Donc la prise de risque, elle était quand même plus faible. Et je pense que pour moi, à ce moment-là, c'est aussi rentré en ligne de compte parce que il fallait juste entre guillemets reprendre des études pendant 1 an. Je ne crois pas que si j'avais dû à ce moment-là reprendre des études pendant 3 ans, pendant 4 ans, je pense que la peur aurait été peut-être trop grande et j'aurais peut-être pas sauté le pas d'y aller. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. Donc ça m'a vraiment permis de donner naissance à ma deuxième fille de manière plus sereine en me disant oui, c'est sans doute vers là que j'ai envie d'aller. Et puis il y a eu un vrai bouleversement, c'est que quand j'ai donné naissance à ma deuxième fille, j'ai vécu une naissance qui était pas du tout la même que ma première. J'avais vécu une première naissance assez médicalisée où je m'en étais beaucoup remise finalement au milieu médical, ce qui était tout à fait ok pour moi à l'époque et mon vécu il était très positif. Par contre, dans cette deuxième grossesse et dans cette deuxième naissance, j'avais plus du tout envie de la même chose. J'avais envie d'une naissance respectée, j'avais envie d'une naissance physiologique. Donc pour moi, ça voulait dire une naissance physiologique à l'époque, faire naître mon bébé sans péridurale, en étant vraiment actrice de la naissance de mon enfant avec mon partenaire, etc. Et en fait, j'ai vraiment vécu une naissance qui a été je dirais que dans ma vie, dans ta vie, t'as toujours un peu des turning points qui sont un peu transformateurs complètement. Et la naissance de Zélie en fait partie puisque elle devait naître à la maternité. J'avais choisi une maternité de niveau 1, accouchement physiologique, peut-être dans la baignoire si c'était possible, etc. Et en fait, j'ai accouché chez moi. Elle est née à la maison de manière inopinée. Je peux pas dire complètement qu'inconsciemment c'était inopiné, j'imagine en l'ayant analysé beaucoup après sa naissance, et c'était il y a 10 ans, donc j'ai le temps de l'analyser depuis, sans doute qu'au fond de moi c'était ce que je désirais, mais à ce moment-là je connaissais pas la possibilité d'accoucher avec une sage-femme à domicile, j'avais aucune information autour de l'accompagnement global de la grossesse, j'étais vraiment complètement sur un autre prisme de la naissance, et donc Zélie est née. Je l'ai mise au monde, je dirais seule, puisque c'est moi qui l'ai mise au monde dans notre chambre. Et Gaël, mon compagnon...
T'avais pas de pompiers ou...
Non, les pompiers sont arrivés après. Donc du coup, elle est née vraiment dans mes bras. Gaël était là. Quand il m'a dit « on part à la maternité », je dis « mais non, en fait, on part pas, puisque mon bébé, là, il est en train de naître. Notre bébé est en train de naître. Il faut que t'appelles les pompiers. » Je sais même plus si je lui ai dit ça, mais... Et donc lui, il a appelé les pompiers, bien sûr. Mais le temps qu'ils arrivent, c'est lui qui a réceptionné.
Waouh.
Donc tu vois, c'était plutôt intense. Donc comme point de ouais, de changement, comme point de bascule. Je pense que ça a été énorme pour moi. Je l'ai analysé plus tard. Mais donc voilà, il y a vraiment eu ce moment où je me suis sentie en puissance dans la naissance.
Ouais, en fait, c'est ça qui est fou. Enfin, tu vois, moi, ma deuxième, elle est née sans péridurale, mais à la maternité. Mm-hmm. Et c'était un... On va dire que c'était plus un non-choix qu'un choix qui n'est pas la péridurale. Mmh. Mais clairement, alors, ben, en fait, là, ce qui m'avait vraiment impressionnée, c'est de voir, en effet, comme ton corset, en fait.
Exactement.
Et c'est, alors, je ne sais pas, alors, pense en même temps, si on ne sait pas, hein, si j'avais été comme toi à la maison, j'aurais sûrement pas eu le choix d'aller accompagner la naissance avec les mains et compagnie. Mais ouais, c'est fou de voir comme, en effet, on est. T'as ton instinct animal qui ressort, quoi.
Mmh, c'est ça. Et pour moi, tu parlais tout à l'heure, tu disais, mais comment tu te sentais dans le corps? Moi, à ce moment-là, ça a vraiment changé quelque chose pour moi. De me dire, je peux mettre au monde mon bébé. En fait, je me suis dit, dans ma vie, en fait, je peux tout faire.
Ouais,
quoi.
Je peux tout faire. Ah, c'est clair.
Je peux tout faire. Maintenant, bien sûr que j'aurai la trouille de nouveau, j'aurai peur. Toute nouveauté, chez moi en tout cas, amène de la peur, une forme d'anxiété, de me dire, oh là là, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que non. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui doute beaucoup aussi, mais je sais que je peux le faire. Et je pense que la naissance de Zélie m'a vraiment amené ça, ce cheminement-là. Parce que, et je sais même pas si c'est le fait qu'elle soit née à la maison, parce que je pense qu'elle serait née à la maternité, sans doute, ça aurait été aussi, j'aurais aussi vécu ça. C'était plus le fait de le faire moi, et de le vivre moi. Donc pour moi, c'était ça, c'est ça qui a changé. Le point de bascule, il est vraiment à cet endroit-là, tu vois, dans mon cheminement. Et ensuite, j'ai fait mon congé maternité. J'ai été en lien avec mon bébé.
Donc là, t'étais toujours au niveau professionnel, t'étais toujours dans l'agence.
J'étais toujours à l'agence à ce moment-là.
Donc,
j'étais toujours à l'agence. J'étais en congé mat. J'étais toujours à l'agence. J'avais à ce moment-là prévu de revenir à l'automne quand ma fille aurait 5-6 mois. Voilà, j'ai tout était.
Et la formation, c'était acté dans ta tête ou pas encore?
C'était pas encore acté dans ma tête. Je pense que c'était encore en chemin et je crois que la naissance de Zélie a vraiment marqué ce tournant de réalisation. Et puis il y a eu aussi toute une période postpartum qui a été difficile parce qu'après avoir vécu cette naissance finalement si intense, si belle, si autonome, actrice de ce qui se passait, j'ai vécu un peu le contre-coup du postpartum avec beaucoup de solitude, de petites filles à gérer, des questionnements d'allaitement, et j'ai rencontré à ce moment-là des cercles de soutien, en fait, des cercles de soutien de femmes autour de l'allaitement, et j'ai rencontré notamment une femme qui m'a beaucoup accompagnée, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, parce que j'ai observé chez elle, c'est elle qui animait ces temps de parole entre femmes, j'ai observé chez elle à quel point son écoute était fine, son écoute active, sa manière d'être présente aux femmes, et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire, quoi, dans mon métier. Donc ça a un peu, je dirais, au fur et à mesure, j'ai tricoté un peu ce cheminement vers le métier d'auxiliaire de puériculture, et au moment où il a fallu revenir, là, revenir à l'agence, là, on en a vraiment discuté avec l'équipe, avec mes boss surtout, avec Emmanuel, qui était ma chef et la responsable de l'agence, et elle m'a dit, mais c'est ok, on va faire une rupture conventionnelle, voilà, on a eu des années super avec toi, on est hyper content, on est super content que tu t'ailles vivre autre chose. Donc j'ai cette chance aussi d'avoir croisé sur ma route, je dirais, des personnes qui m'ont soutenue. C'est vrai que quand c'est douloureux et quand c'est violent et quand la rupture est dure, oui, je pense que c'est plus difficile sans doute de partir.
Et là, ça faisait combien de temps que tu étais dans l'agence ?
J'étais dans l'agence depuis 6 ans à peu près. 6 ans, je crois. J'ai peur de te dire une bêtise. Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, donc là, du coup, rupture conventionnelle, donc tu as le droit au chômage.
Exactement. Rupture conventionnelle.
Tu commences tes études ?
Exactement. Alors je prends un petit temps. J'ai pas commencé tout de suite parce que j'avais vraiment envie d'être encore un petit peu avec les filles, d'avoir ce temps pour être auprès d'elle. Et donc, janvier 2014, je démarre ma formation d'auxiliaire de puériculture. Je m'étais vraiment dépatouillée avec Pôle emploi pour avoir les financements de l'école. Les métiers comme auxiliaire de puériculture, c'est des métiers qui sont en tension. On cherche, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. On cherche beaucoup d'auxiliaires de puériculture. Donc, voilà, c'était une possibilité pour moi de démarrer là. Et surtout, j'ai traversé des moments où, quand j'ai présenté les concours pour rentrer dans ces écoles, on m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» On m'a dit « mais vous avez un bac plus 5, enfin voilà, vous avez un métier, qu'est-ce que… » Donc, j'ai été pas mal challengée assez rapidement au moment du passage des concours. Dès le début de la formation, on a, je pense, attendu beaucoup de moi dans cette formation. Mais ce qui était hyper riche, c'est que c'était une année de formation avec à peu près 6 mois en théorique et 6 mois de stage. Donc j'ai été tout de suite, dans le bain de aller travailler en structure d'accueil, être en crèche. Les auxiliaires de puériculture, pour parler un petit peu de ce métier, en gros, il y a plusieurs facettes. C'est vraiment un métier d'accompagnement à la fois du tout petit et à la fois du parent. Pour le tout petit, on va être les femmes qui accompagnent, ou les femmes, il y a aussi des hommes, mais c'est globalement un métier de femme. Aujourd'hui, les auxiliaires qui accompagnent les enfants, elles accompagnent en crèche, en halte garderie, dans les lieux de petite enfance. Donc, elles accompagnent le quotidien de l'enfant. Donc ça, c'est une partie du métier. Il y a une autre partie du métier qui est l'accompagnement en maternité. Donc elles vont seconder la sage-femme dans l'accompagnement au moment de l'accouchement. Elles vont être présentes en postpartum pour le lancement de l'allaitement, les premiers bains du bébé, etc., quand les femmes sont en suite de couche. Et puis il y a d'autres endroits où les auxiliaires de puériculture vont pouvoir intervenir, notamment dans des pouponnières où les enfants nés sous X sont accueillis après leur naissance avant d'être adoptés. Voilà, il y a pas mal d'endroits dans des lieux avec des enfants porteurs de handicap. Enfin voilà, les auxiliaires, c'est un métier qui est assez large, dont j'ai vraiment envie de parler parce que c'est un métier qui est assez méconnu. Souvent quand on parle des gens qui travaillent dans une crèche ou dans une maternité, on va dire ah bah il y avait une sage-femme, il y avait des dames. Alors c'est un peu comme dans les écoles, on parle de l'institutrice et on parle des dames qui sont là à côté, mais on parle pas du métier d'ADSEM. Je trouve que c'est important.
À Marseille, ils appellent ça les tatas.
Voilà, les tatas. Donc on est un peu, il y a vraiment pour moi cette idée de dire bah oui, c'est un métier qui est finalement méconnu, mais c'est un peu les femmes qui travaillent dans l'ombre. Je trouve qu'il y a.
Même celles qui sont en première ligne.
Exactement.
C'est elles qui t'aident à donner le bain, les moments les plus clés quand t'es à la maternité.
Exactement.
C'est elles qui sont là et clairement, c'est quand t'es en pleine nuit, c'est ta première nuit avec ton bébé, c'est elles qui sont là, ouais.
Vraiment, pour moi, c'était ça que j'avais envie de vivre, et j'avais un peu cette idée que je bosserais en maternité. Je me disais, avec tout ce qui s'était passé dans la naissance des filles, etc., j'avais cette idée que je bosserais en maternité, mais les formatrices me disaient toujours, n'oubliez pas, il n'y a pas de place dans les maternités, dans les centres de PMI, c'est hyper demandé, c'est des postes de fin de carrière, dadada. C'était un peu la mentalité à ce moment-là. Moi, je disais non, moi, je ferais ça, parce que de toute façon, je savais que je ferais ça. Donc voilà, j'ai fait ma formation cette année-là, et puis à la fin de ma formation, j'ai fait un stage dans un centre de PMI. Donc les centres de PMI, c'est ces centres de protection maternelle et infantile qui accompagnent, donc c'est des lieux d'État, donc qui sont financés par les impôts, et qui accompagnent les familles de manière pluridisciplinaire, puisqu'il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires, il y a des médecins qui travaillent autour de la vaccination et des premiers soins aux enfants. Et donc nous, dans ces lieux-là, on accueille les familles, on les accompagne justement dans leur devenir parents. Et moi, j'ai eu la chance de faire un stage dans une PMI. Et à la fin, on m'a dit, en fait, il y a un poste qui se libère et c'est quand même un peu chouette, c'est juste à côté de chez toi. Donc j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc mon premier poste d'auxiliaire, c'était un poste d'auxiliaire de puériculture en PMI.
Et là, comment, tu t'éclates dans le travail, mais comment se vit du coup le fait d'avoir ton salaire qui se prend une grosse claque et au niveau, pareil, voilà, le regard des autres de, comme tu disais tout à l'heure, la personne qui bosse dans la communication de l'audiovisuel et qui se retrouve dans une PMI.
Ça a été honnêtement super dur. Je trouve que ce qui a été dur finalement, c'est qu'il y avait certaines personnes qui me soutenaient, mes proches, des amis, etc., qui me disaient « mais c'est super, tu vas faire ce que t'aimes, c'est vraiment génial, c'est hyper positif, voilà ». Et puis j'avais quand même quelques proches qui étaient hyper inquiets et qui me disaient « mais c'est n'importe quoi », enfin ils le disaient pas frontalement comme ça, mais je l'entendais bien, « c'est n'importe quoi, cette perte de salaire, tu te rends pas compte ». Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a beaucoup partagé avec mon compagnon Gaël. On a toujours été dans l'idée que, c'était un vrai changement de vie pour que moi je sois épanouie professionnellement, pour que je puisse aussi être en lien avec nos enfants, pour que lui, il puisse aussi sentir que il a une femme qui aime ce qu'elle fait au quotidien et qui est pas déprimée de son boulot et qui rentre pas en râlant, etc. Donc en fait, cette perte de salaire, elle a été compensée par le plaisir d'être à ma place. Donc oui, c'était dur et on y a pensé avant. On s'est pas dit le jour du premier jour de boulot, « Ah bah tiens, finalement, tu vas gagner un SMIC. » Non, on le savait. On savait avant. Donc ça a été, je dirais, une co-construction tous les deux de cette nouvelle vie. Et ça, c'était important, en fait, d'en parler, d'être ensemble. Voilà, de se caler, de me sentir soutenue aussi à ce moment-là.
Et donc là, du coup, tu commences dans la PMI. Donc, tu disais que tu étais super heureux, ça se passait bien. Combien de temps tu restes dans la PMI ?
Je reste à la PMI à peu près 5 ans, mais assez rapidement, en fait, parce que j'avais vécu un épisode que je t'ai pas raconté, mais quand j'ai fait un de mes derniers stages en tant qu'auxiliaire de puériculture, c'était un stage en maternité à la maternité des Lilas. Qui est la maternité des Lilas, c'est vraiment une maternité plutôt emblématique du respect des femmes, du droit à l'avortement. Enfin voilà, c'est vraiment une maternité qui milite pour que les femmes se sentent soutenues dans leur cheminement et de femmes et de mères. Et donc j'ai un peu été pushy pour vraiment faire ce stage-là et j'ai eu la chance d'être acceptée. Et donc j'ai fait un mois de stage à cet endroit-là où j'ai fait à peu près une semaine en salle de naissance et 3 semaines, je dirais, ensuite de couche. Donc après la naissance des bébés. Et en salle de naissance, en fait, j'ai eu une vraie révélation parce que à un moment, une sage-femme m'a dit « Va avec cette femme qui est en train de donner naissance à son bébé, elle veut faire naître son bébé sans péridurale, c'est son 3e, mais là, il y a la grand-mère qui est là aussi, je sens qu'elle est peut-être un peu en train de flancher, ce serait chouette si tu étais avec elle, que tu pouvais l'écouter, etc. » On avait vraiment bien fitté avec l'équipe des sages-femmes, il y avait une belle ambiance. Et moi, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je vais être avec cette femme, mais je fais quoi, en fait? Et elle me dit, mais juste, t'es là, tu t'es présente pour elle, je sais que tu vas savoir. Elle était vraiment, elle s'appelle Aude, cette sage-femme au Lila. Et elle m'a vraiment dit, vas-y, quoi, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, je suis restée avec cette femme, j'ai respiré avec elle, j'ai soufflé, son mari était là aussi. Quand il y avait de la peur un peu chez lui, je regardais, je sentais que voilà, ça posait les choses. J'étais vraiment dans ce cocon et dans cette intimité pour leur dire que ils étaient en train de le faire, quoi. Ils étaient en train de mettre au monde leur bébé et que c'était génial. Et donc finalement, la petite Suzanne est née dans l'eau, dans la baignoire à la maternité. Et juste après la naissance, la sage-femme m'a dit « Mais ce que t'as fait là, c'est un métier en fait, ça s'appelle être doula ». Et j'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc de doula, quoi? Enfin, c'est une secte, c'est un, enfin voilà, je trouvais ça trop bizarre ce mot, en plus, doula, enfin, vraiment hyper bizarre. Mais le soir même, j'ai été sur Internet et j'ai été sur le site de l'association Doula de France, qui fédère les doulas en France. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça que je veux faire. C'est exactement ça. Écouter les familles, être présente pour elles, les soutenir dans la continuité, c'était ça. Enfin, ça, tout à coup, c'est genre alléluia, il y a un espèce de truc de, tu vois, qui s'éclaire, quoi. Tu vois, la lumière, c'est hyper clair. Et donc, j'ai quand même pris mon poste à la PMI puisque voilà, il fallait que j'ai un job et que je démarre. Et progressivement, c'était clair que j'étais une auxiliaire de puériculture / doula. Donc, tu parlais des métiers multiples et du fait d'être multimétier. Rapidement, j'ai été quand même une slasheuse assez vite, tu vois.
Oui, parce que du coup, tu as suivi une formation de doula ?
Oui, tout à fait. En fait, en 2015, du coup, j'ai pris mon poste en PMI. Et à partir de 2016, j'ai commencé à me former. Donc, je me suis formée notamment à l'hypnose périnatale avec Lise Bartoli en hypnonatale. Je me suis formée en chant prénatal avec l'Association française de chant prénatal, musique petite enfance. Voilà, j'ai commencé...
Pour ceux qui connaissent pas, alors moi, j'avoue que le chant prénatal, je connais parce que j'en ai fait quand j'étais enceinte. Ouais. Pour me raconter peut-être aux auditeurs qui connaissent ni l'hypnose prénatale, prénatal ni le champ prénatal.
Bien sûr. En fait, dans notre métier d'écoutant, d'accompagnant à la naissance, la majorité de notre métier, la plus grande part, c'est un métier d'écoute. Donc, on va prendre des temps pour entendre ce que la famille vit, ce dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin de déposer. Et puis, au-delà de ces temps d'écoute, chaque doula a un peu sa tonalité, sa manière d'accompagner avec des outils et ces outils-là en font partie. L'hypnose périnatale, c'est de l'hypnose de relaxation. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des lieux ressources, de la confiance, des visualisations qui vont permettre de s'accompagner au moment de la naissance et de se sentir soutenue. Donc, ça, c'est un des outils que j'utilise dans ma pratique. Et puis, le champ prénatal, c'est un outil qui ramène au corps, qui ramène aux vibrations. Tu connais ça puisque tu l'as vécu, Charlotte, dans tes grossesses. C'est vraiment se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur ses ressentis. Et puis faire vibrer aussi son corps, puisque notre corps, il est en vibration dans l'accompagnement de notre bébé. Donc voilà, c'est vraiment créer du lien avec son bébé. Dans tous ces outils-là, il y a vraiment cette idée-là aussi. Et voilà, moi, à ce moment-là, c'était les outils que j'avais soit utilisés moi personnellement, soit dans lesquels je voyais vraiment un plus, je dirais, à offrir aux familles. Donc c'est vraiment avec ceux-là que je me suis formée au début. Donc ça, c'était à partir de 2016-2017, et en 2017, je me suis dit j'ai envie d'être doula. Je suis doula. Je me disais au fond de moi, je suis doula. Donc c'est à ce moment-là que j'ai creusé un peu les lieux de formation et je me suis formée à l'Institut des Doulas de France pendant toute une année, un week-end par mois. Je retrouvais le groupe de 15 femmes qui se formaient en même temps.
C'est la question que j'allais te poser. Donc du coup, tu faisais ça le week-end et enfin, t'avais ton job et tu faisais ça le week-end en plus.
C'est exactement ça. J'étais à plein temps à la PMI, donc je travaillais du lundi au vendredi et je commençais un petit peu puisque j'avais eu mes formations d'hypnose, donc je commençais à accompagner quelques couples. J'avais quelques personnes qui avaient entendu parler de l'hypnose, des amis d'amis, et donc le samedi matin, je bossais en plus. Je faisais des rendez-vous d'hypnose avec les familles. Donc j'ai commencé comme ça à accompagner quelques familles. Et 2017, la formation un week-end par mois, c'était tout à fait compatible avec ma vie de famille puisque Gaëlle était avec les filles ces week-ends-là et moi, j'avais la liberté de me former.
Génial. Et alors, du coup, à partir de quand tu as décidé de quitter la PMI?
Ça s'est fait progressivement. En 2017, j'ai commencé à prendre un mi-temps. Donc vraiment 2 ans après mon démarrage à la PMI, j'ai pris un mi-temps. Donc j'avais la moitié de mon temps sur les accompagnements et la moitié sur la PMI. Et puis en 2019, j'avais plus qu'une journée à la PMI. J'ai été encore une fois hyper soutenue par la puéricultrice avec qui je travaillais, qui, en fait, elle me disait oui à tout. Elle était tellement contente de notre partenariat, de notre manière de travailler. C'était tellement chouette de travailler ensemble que quand j'avais des envies, elle disait non mais attends, moi je veux pas que tu partes. Ok, tu restes qu'une journée, c'est ok pour moi. Donc voilà, elle a vraiment poussé aussi pour que je puisse rester. Et puis en 2020, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses émotionnelles qui se sont passées dans le centre où je bossais, qui ont fait que j'avais plus envie de rester. En fait, je trouvais que l'institution était maltraitante. Parce que, je te donne un exemple, mais quand il y a eu le Covid, on n'a plus accepté que une personne avec les bébés. C'est-à-dire que les mères venaient, elles venaient d'accoucher, elles venaient pour faire peser leur bébé, pour avoir des informations autour de l'allaitement, de l'alimentation du tout-petit, des nuits, etc. Elles avaient plein de questions, mais elles pouvaient plus rentrer dans la PMI avec leur mari ou leur partenaire. Parce que on disait c'est trop dangereux, etc. Et pour moi, ça, c'était clairement pas OK, parce que j'accueillais des femmes qui étaient en pleurs, qui se sentaient seules, qui avaient envie que leur partenaire soit là, que leur partenaire entende aussi ce qu'elles étaient en train de traverser. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui ont fait que je suis partie. Mais voilà, c'était clair qu'il fallait que je travaille ailleurs et que j'avais plus envie d'être à cet endroit-là, que c'était trop dur.
Et donc là, à partir du moment où t'as pris la décision de partir, financièrement, comment ça s'est passé?
En fait, j'étais déjà presque quasiment sur mes revenus en tant que doula. Donc ça a été, en fait, tout s'est fait un peu au fil du temps, mais c'était quand même rapidement, j'ai gagné plus d'argent de toute façon en étant doula qu'en étant auxiliaire de puériculture. Il y avait pas photo du tout. Donc cette question-là, elle était vite réglée. Donc moi aujourd'hui, je suis complètement indépendante et je travaille en tant qu'indépendante, mais je gagne bien ma vie. Enfin, il y a un équilibre qui s'est trouvé au fil du temps qui est parfait pour moi.
Est-ce que tu gagnes autant que dans ta vie professionnelle d'avant ou pas?
Non, je gagne pas autant. Clairement, j'avais des primes qui étaient qui était d'un autre, d'un autre espace-temps à cette époque. Mais je gagne assez bien ma vie pour que ce soit un équilibre pour moi et surtout que je sente, enfin, ce que je sens, c'est que mon travail est valorisé à sa juste valeur. Pour moi, c'était hyper important pour moi. C'est pas ma valeur à moi, mais c'est ce que j'offre aux familles et complètement valorisé par ce que je gagne aujourd'hui. Donc, c'est voilà, je suis hyper à l'aise et hyper bien avec ça.
Tant mieux. Et tu as écrit un livre ?
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de l'écriture de ce livre ?
Oui, j'ai été contactée justement en 2020, au moment où je quittais la PMI, j'ai été contactée par la maison d'édition First, qui m'a dit « on aime bien votre manière d'écrire sur les réseaux sociaux, est-ce que vous auriez envie d'écrire un livre sur votre métier de doula, sur ce que vous faites dans l'accompagnement ?» Et j'ai dit oui tout de suite. C'était, je pense que ça faisait partie d'une des envies depuis petite d'écrire, d'être dans les mots. Enfin voilà, j'aime beaucoup les mots et la voix, la parole. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Et donc j'ai écrit en 2021 ce livre qui s'appelle À l'écoute de la naissance. Et j'y raconte mon cheminement vers le métier de doula. Donc je parle bien sûr de ma reconversion pro, des personnes aussi qui ont compté sur ce chemin. Moi je crois beaucoup aux rencontres, aux synchronicités aussi, sans que ce soit forcément perché et spirituel, mais vraiment à cette idée que j'ai su pousser les bonnes portes au bon moment parce que c'était ma place en fait d'être là. Et donc j'ai eu envie dans ce livre de laisser la parole à ces femmes qui ont compté. Donc il y a des portraits de femmes dans le livre, et puis je parle bien sûr de ce que j'offre en tant que doula. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement pour que les familles puissent comprendre à quel point ça fait du bien d'être écoutée, d'être entendue dans son cheminement de parent, qui est quand même encore aujourd'hui un cheminement solitaire, globalement assez solitaire.
Ouais, puis tu apprends à être parent. Enfin, t'as une responsabilité incroyable. Mais oui, certes, il y a des livres et compagnie, mais chaque enfant est différent. T'as ton vécu personnel est différent. Enfin, c'est sûr.
Bien sûr. Et le livre, il parle de ça. Il parle de la nécessité d'être à l'écoute de ses ressentis. J'ai eu envie d'écrire aussi beaucoup de méditations dans ce livre pour que les familles aient des outils aussi concrets pour expérimenter des choses dans leur corps émotionnellement. Donc je suis assez heureuse, c'est pour moi d'avoir écrit ce livre et d'avoir les retours des familles, des femmes qui le lisent. C'est sentir que c'est comme si je donnais encore plus de sens à mon métier. Je pense que au fil du temps, quand on a un métier qui est méconnu et ou quand tu dis tu fais quoi dans la vie, et moi je dis je suis doula. Il y a 5-6 ans, on me disait hein, quoi, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, il y avait vraiment ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le métier de doula, mais pour moi c'est beaucoup plus facile de parler de mon métier, de dire ce que je fais, de dire quel sens il a. Et donc ce livre, il venait un peu mettre un tampon, tu vois, un peu bon, bah voilà, il existe, il est présent, et voilà ce que je fais en fait, voilà ce que je suis plus que ce que je fais finalement.
Ouais. Comment t'écoutes ton intuition?
J'écoute mon intuition beaucoup dans mes échanges avec les familles. Tu vois, par exemple, quand on va avoir un temps d'une heure, 1h30 dans un échange avec une femme que je rencontre pour la première fois, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi et qui sont pas dites. Et parfois je me dis tiens, moi je ressens ça, j'ai la sensation que ce qu'elle me partage, c'est ça. Est-ce que j'ai raison par raison? Je suis jamais sûre, donc j'aime pas du tout plaquer des choses. Ça, c'est vraiment important dans ma pratique de doula, d'être vraiment dans cette écoute et dans cette reformulation de ce que la femme, elle me partage. Mais parfois, je vais pouvoir ajouter des choses en disant j'entends ça de ce que tu me dis, de ce que tu me partages, de tes doutes, de tes peurs par rapport à la naissance de ton bébé, par exemple. Et moi, au fond de moi, quand tu me partages ça, voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça te semble juste? Parce que bien sûr, j'ai pas du tout envie de leur plaquer des choses sur eux, mais ça, c'est important pour moi. Donc ouais, écouter mon intuition, ça peut être dans ces temps d'échange avec les familles. Et de manière générale, je pense que plus je vieillis et plus je suis dans cet espace de l'intuitivité et de ressentir les choses parce que je me sens plus à l'écoute de moi, en fait. Donc ça a plus de sens.
Comment tu célèbres tes réussites ?
Et ben, je célèbre mes réussites d'une façon, de plusieurs façons. Moi, j'aime bien. On a ma deuxième fille Zélie. Elle est dans une école qui est formidable, qui s'appelle Living School à Paris. Et c'est avec eux qu'on a vraiment appris à développer le fait de célébrer nos réussites. Et à la maison, on a un petit bocal qui peut contenir des billes. Et on a tout un sac avec plein de billes. Et donc, quand on a des réussites ou des choses qu'on a envie de célébrer, bah on se le dit en famille, le bol est à côté d'un petit hôtel qu'on a dans le salon. Et donc, on peut célébrer et dire « Ah bah, il y a eu ça, c'est vraiment chouette, tac, je vais mettre une petite bille dedans » et il se remplit au fur et à mesure. Et comme les filles grandissent, célébrer les réussites, pour moi et pour nous aussi avec Gaëlle, avec les filles, c'est vraiment en fait se parler. Avoir des temps d'échange le soir quand on dîne et dire « Ah bah, c'était quoi ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est vraiment ça. Célébrer, pour moi, c'est nommer, reconnaître. Reconnaître et pas passer, pas juste dire « Ah bah, il s'est passé ça, ouais, c'était super. » Voilà.
S'arrêter, prendre le petit temps.
Exactement. Prendre le temps d'observer les réussites. Et moi, j'invite beaucoup les familles que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, à prendre un petit cahier et à noter aussi dans le temps de leur grossesse quelles sont les choses qu'elles observent et qui sont pour elles des réussites aussi de co-construction avec leur partenaire, si elles ont un partenaire, de ce qu'elles ont elles réussi à faire, à dire. C'est hyper important pour moi de se célébrer parce que c'est toujours beaucoup plus facile de dire « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'ai pas fait ça. Ah mince, oh là là, j'ai pas été au bout de ce truc. » On a quand même un biais de négativité qui est quand même souvent très présent. Enfin, je vais pas dire « on », mais moi, en tout cas, j'ai un biais de négativité qui peut être assez présent. Et je sais que c'est le cas quand même de beaucoup de monde. Donc, cette idée de vraiment voir le positif, c'est aussi l'espace des gratitudes dans son lien aux autres, de réussir à dire « Ah bah merci, quoi. Merci pour ce que vous m'offrez. » C'est aussi ça. Ça va un peu plus loin que le succès, du coup, mais ça me parle.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?»
À quel moment je me suis dit « Pourquoi pas moi ?» C'est une bonne question. Je pense ce moment où je suis partie vivre aux États-Unis, ça a été un moment qui est aussi dans mes moments clés, le fait d'oser en fait et de se dire ah bah oui il y a, je voyais ce prospectus, je me souviens de la tête un peu du prospectus un peu orangé, on voyait des lockers américains dans une école, dans une high school américaine et je me disais ah mais c'est les autres qui font ça, ah mais c'est les, et je me disais mais bah ouais, mais non, en fait, moi aussi, je vais faire ça. Donc, je pense qu'à cet endroit-là, et ça a été comme une première pierre, tu vois, un premier succès, si je repars sur mes billes de succès, ça a été un premier succès d'oser et de dire, bah ouais, c'est ça que je vais faire et c'est moi, Leslie, je vais faire ça. Et je pense que ça m'ouvre aussi, ça m'a ouvert pour la suite à oser y aller.
Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des nouveaux challenges, justement, où tu te dis, pourquoi pas moi?
Et ben cette année c'est quelque chose qui vient juste de se passer là. J'y pensais depuis longtemps, j'avais envie de faire de la supervision de doula puisque moi-même je suis supervisée, je suis accompagnée aussi dans mon cheminement à la fois de manière thérapeutique et puis en coaching sur ce que je fais, sur ce que je vis dans ma pratique de doula. J'avais envie d'offrir ces espaces aux femmes qui sont doulas pour que elles aussi, elles puissent se déposer, venir questionner leur pratique, avancer. Et donc j'y ai pensé pendant longtemps. Je pense que c'est un peu mon mode de fonctionnement. Je pense, je crée dans ma tête. Enfin là, ça se crée une fois dans ma tête d'abord, avant de prendre, enfin mille fois, je dirais, dans ma tête, avant de prendre forme sur le papier. Et donc là, je viens juste de lancer ce programme qui est un programme de supervision des doulas qui s'appelle le Cocon des doulas. C'est un programme en présentiel à Paris où les femmes se retrouvent. On se retrouve une fois par mois. Et voilà, ça a eu lieu cette semaine et j'ai vraiment mais le cœur gonflé d'amour pour ces femmes et pour moi-même aussi de leur avoir offert cet espace. Donc ça a été un peu voilà le challenge des derniers temps. Et moi je me rends compte en fait c'est une question que j'ai eue cette semaine. C'est marrant que tu me parles de ça parce que je me suis dit mais pourquoi je suis tout le temps en train de me dire il faut faire autre chose, créer autre chose, avoir un nouveau challenge. Est-ce que je pourrais pas juste être pépouse et me poser en m'appuyant sur ce que j'ai déjà créé? Et en fait, je me rends compte, juste en le posant comme ça, en me questionnant sur ça, en écrivant, je me suis dit, mais oui, en fait, je sais pourquoi je fais ça. Je le fais parce que derrière, je récolte quelque chose. Et ce que je récolte, c'est toujours de la joie, de l'ancrage. Et ça revient, tu parlais tout à l'heure de mon pourquoi dans la vie. Moi, mon pourquoi, clairement, c'est de rayonner de la joie et de donner de la joie, de la douceur, etc. Je pense que c'est un peu la base de ce que je fais depuis que je suis bébé. Et du coup, tu vois, c'est aussi en lien avec mon objet, avec mes boucles d'oreilles, soleil. Je sens à quel point, en fait, quand je crée quelque chose de nouveau, bien sûr, j'ai la trouille et j'ai peur. Il y a des femmes qui me disent « Oui, mais tu crées des choses nouvelles, c'est parce que t'es pas trop angoissée de nature, etc. » J'ai mis n'importe quoi. Voilà. Bien sûr que j'ai la trouille, j'ai peur de créer, de faire des choses nouvelles. Je me dis « Ah, mais si ça plaît pas et si on m'aime pas, il y a toujours ce truc un peu de « Est-ce qu'on va aimer ce que j'offre, quoi ?» Il y a toujours un peu ce truc-là derrière pour moi. Et donc, mais derrière, il y a tellement ce truc d'être aligné. Tu parlais d'alignement tout à l'heure, d'être aligné, de sentir l'énergie, qu'en fait, ça a du sens.
Oui, et puis si on reste, alors il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, mais quand tu fais tout le temps la même chose, tu rentres dans ta zone de confort et qu'à un moment, t'es pas bien, en fait. T'as besoin d'avancer, t'as besoin d'apprendre pour pouvoir sentir en vie et c'est un cheminement permanent, en fait.
Ouais, je sens ça, ce que tu nommes là de se sentir en vie. Pour moi, c'est ça que ça amène. Alors, ça amène aussi du questionnement. Donc, des fois, je me dis, mais ok, reste un peu en mode laid back, pose-toi, peut-être pendant un temps. Donc voilà, c'est à doser. Je pense qu'il faut pour moi, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre créer des nouveaux projets et à la fois, avoir de la sécurité, se poser. C'est important.
Ouais, il y a une différence entre se disperser et avancer.
Exactement. Ouais, tout à fait.
C'est quoi pour toi la réussite?
C'est quoi pour moi la réussite? La réussite d'un point de vue, si je place la réussite d'un point de vue professionnel, pour moi, c'est vraiment l'alignement. Ce que tu as nommé tout à l'heure et ce que je vais renommer ensuite, pour moi, c'est vraiment ça. Sentir que je suis en adéquation, enfin qu'il y a un espèce de truc, tu vois, qui s'imbrique entre mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de donner aux femmes que j'accompagne. C'est vraiment ça, c'est l'alignement entre ça a du sens aussi. Je pense qu'il y a alignement et sens. Pour moi, c'est ça le lieu de la réussite pour moi. Et puis, je pense que je peux pas, là, en réfléchissant, je me dis, je peux pas l'extraire aussi de la vie personnelle et de la vie familiale. C'est-à-dire que tout s'imbrique ensemble. C'est si je m'épanouis professionnellement, mais que derrière, j'ai plus d'espace pour avoir du me time, du temps pour moi, où je prends soin de moi. Ah, ça marche pas trop, hein. Franchement, je sais que je peux être un peu comme ça. C'est un peu un tempérament de donner beaucoup, d'être beaucoup dans la, d'être très disponible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi en coaching, en supervision, de trouver le juste équilibre entre ce que je donne et puis l'équilibre pour moi, pour ma famille. Ça, c'est important.
Comment, dans tout ce que tu vis, j'imagine qu'il y a des moments où c'est des moments plus ou moins difficiles dans les rencontres que tu fais. Comment tu fais pour te protéger de tout ça?
Ouais, c'est une vraie question très importante dans le métier de doula, puisque on pense souvent au métier de doula comme étant celui d'une accompagnante à la naissance, où on va être présente dans le moment doux de l'accouchement, doux et intense de l'accouchement. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on est présent vraiment de manière transverse à tous les moments de la parentalité. Donc ça veut dire aussi parfois accompagner des moments beaucoup plus durs. Ça peut être un deuil périnatal, une grossesse qui malheureusement ne va pas à son terme. Et donc la famille perd son bébé. Donc dans ces temps-là, par exemple, c'est sûr qu'on est forcément touché. Dans ma posture d'accompagnante à la naissance, c'est tout à fait ok pour moi d'être touchée. Et c'est une posture qui est vraiment dans l'horizontalité avec les familles. Donc ça m'arrive parfois quand elles sont traversées par de la peine, du chagrin, des choses qui sont vraiment très douloureuses et difficiles, d'être présente avec elles et de pleurer avec elles. Pour moi, ce qui est important, c'est que je pleure pas sur moi et sur le fait que c'est vraiment horrible et vraiment c'est terrible et vraiment et ma peine ne prend pas une place énorme et n'étouffe pas ce que la famille est en train de vivre, tu vois. Mais je vais être présente dans l'émotion et dans l'authenticité. Donc ça m'arrive assez souvent de pleurer avec les familles que j'accompagne. Après, c'est leur histoire et cette histoire, elle m'appartient pas à moi, en fait. Donc quand j'arrive, je laisse de côté et c'est assez bizarre comme sensation quand on le vit pas forcément dans le quotidien, mais quand j'arrive auprès des familles que j'accompagne, je pense pas à ma famille, à ce que je suis en train de vivre, à notre histoire, etc. Comme si au moment où, si tu veux, je sonne à la porte de la famille chez qui je vais, je laisse de côté mon histoire pour entrer complètement dans la leur. Et quand je repars, bah finalement, je reste bien sûr à cœur, en lien de cœur avec eux, et je suis présente pour eux et on continue d'être en lien, mais je laisse aussi une part de côté. Donc tu vois, ça me permet, je pense, de me protéger. Il y a aussi des espaces, comme je te disais tout à l'heure, de supervision et de partage. Si je vis des choses qui sont vraiment très intenses pour moi, bah, je vais pouvoir aller les partager dans ces endroits-là. J'ai aussi des consoeurs doulas avec qui je peux partager sur ma pratique. Donc ça, c'est pour moi primordial parce que on est dans un métier de l'humain, dans un métier de l'accompagnement, de l'écoute, et que des fois, on peut être déstabilisé par ce qui se passe, bien sûr.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Leslie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Je pense qu'elle serait contente, hein. Franchement, je crois que j'étais une petite fille qui était quand même assez libre, et cette liberté-là, je l'ai perdue à certains moments. Je pense que je l'avais dans les moments de choix, notamment le fait de partir aux États-Unis un an, où j'ai eu ces temps de liberté qui tout à coup sont revenus, ces bouffées de liberté qui sont revenues. Et aujourd'hui, je sens que le fait d'être doula, de travailler à mon compte, bah, bien sûr que c'est du stress. Quand on est entrepreneur, il y a aussi une part de stress à certains moments. Mais j'ai cette liberté-là et je pense que la petite Leslie, un peu fofolle et un peu joyeuse et cheveux au vent, aimerait bien ça.
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, pour toi, aujourd'hui, tes renoncements ?
Faire des choix, c'est des renoncements. Ben, je sais pas, franchement, parce que aujourd'hui, je suis quand même tellement libre dans mon métier, libre aussi d'être disponible pour mes enfants et pour moi. Faire des choix, c'est renoncer, oui, d'une certaine manière. Quand j'ai quitté l'audiovisuel, j'ai quitté ce côté un peu, pas bling-bling, mais un peu paillette et ah, mais c'est vraiment trop génial. Ah, tu travailles avec telle chaîne, ou ah, t'as travaillé dans tel pays. Un peu cet émerveillement-là, où je pense que ça, je l'ai quitté, forcément, à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement un plaisir pour moi de parler de mon métier, de dire ce que je fais, que finalement cet émerveillement, il s'est transformé en fait. Il s'est transformé où on va me dire « Ah mais c'est génial, ah mais j'aurais tellement eu besoin ». Je suis allée, je vais te raconter cette anecdote parce que c'était assez drôle, ça s'est passé hier. J'ai été chez un praticien de santé que je vois de temps en temps hier, et pour qu'il prenne soin de moi. Et dans le temps d'échange avec lui, en fait, il m'a dit « Ah bah je crois que au moment où j'ai eu mes enfants, j'aurais eu vraiment besoin d'avoir une doula, parce que aujourd'hui il se passe ça dans ma vie de couple, et je sens que c'est terriblement en lien avec ce que j'ai vécu au moment de la naissance de mes enfants, et en fait j'aurais tellement eu besoin d'avoir une personne comme vous pour m'entendre, m'écouter, pour détricoter des choses qui se sont passées avec ma femme, etc. Donc c'était hyper touchant, et donc oui, là je me suis dit bah en fait je suis tellement à ma place que c'est, voilà, ça a tellement de sens aujourd'hui. Et honnêtement, je sais pas si ça aura du sens tout au long de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup, qui a très envie de vivre des choses nouvelles, des choses différentes. Donc, moi, je me dis pas aujourd'hui, ah, bah, je serai doula jusqu'à ma retraite à 80 ans, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, c'est ça ma vie. Au fond de mon cœur, je serai toujours doula, c'est sûr, parce que c'est un savoir-être, et c'est ce que je suis. Mais peut-être que j'aurais envie d'autre chose, de vivre d'autre chose, peut-être
que... Ton why, c'est d'apporter de la lumière, et d'apporter de la lumière, tu peux le faire de façon différente au fur et à mesure de des temps.
Complètement, ouais, tout à fait.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser et comment tu l'as gérée ?
La plus grande difficulté que j'ai eu à traverser dans ma vie... On a vécu au moment où j'étais justement en changement professionnel, donc les filles étaient toutes petites, donc à ce moment-là, Léonie avait 3 ans, Zélie 1 an, quand j'ai commencé ma formation d'auxiliaire de puériculture. Et un mois après le début de ma formation, ma sœur, qui venait d'avoir un bébé, a appris que son fils était très malade. Il a eu un cancer. Et en fait, toute l'année de ma formation d'auxiliaire de puériculture a été mêlée. Je passais mes week-ends à l'hôpital pour être avec elle dans cette chambre stérile où il fallait enlever ses vêtements, enfiler une blouse, être masquée, et puis être confrontée à la possibilité de la mort. En fait, donc de la mort d'un être cher, de l'être le plus cher qui soit dans la vie de ma sœur. Et ma sœur est un des êtres les plus chers dans ma vie puisque je suis très proche de ma sœur Émilie. Et tu vois, ça me donne un peu les poils encore d'en parler parce que la voir elle soutenir son enfant et expérimenter pour moi finalement aussi le fait de soutenir quelqu'un dans la maladie. Je dois dire que la chance qu'on a, c'est que Wael va très bien aujourd'hui. Il est complètement guéri de son cancer. Et la chance que j'ai eue de vivre cette expérience-là, c'est que j'ai été, je pense, confrontée de manière proche à la mort, et je me suis rendu compte à quel point la mort faisait partie de la vie. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements en tant que doula, Je ne souhaite bien sûr à personne de traverser des épreuves de mort et de difficultés, mais je sais que je suis capable aujourd'hui d'accueillir et d'accompagner des personnes qui vivent ce temps de passage. Parce que finalement, la naissance, quand en tant que doula, on accompagne la naissance, on accompagne le passage du bébé de la vie intra-utérine vers la vie extra-utérine, vers les bras de ses parents et vers l'amour de ses parents. Mais le temps de passage vers la mort, c'est aussi un temps de passage. C'est juste qu'il est différent. Et donc, je pense que j'ai appris beaucoup de cette expérience. J'ai souffert beaucoup, forcément. Ma sœur, beaucoup plus, c'est sûr, et son fils, encore plus. Mais je dirais que ça a été... J'ai beaucoup grandi aussi en vivant ça.
Ouais, on en parle souvent dans le podcast, hein, c'est aller chercher les cadeaux mal emballés dans chaque situation, dans chaque expérience, et de se dire, OK, là, c'est un moment difficile, mais comment j'en retire du positif et comment je grandis de cette expérience.
Ouais, complètement. Et avant de traverser, je pense qu'on a besoin d'accueillir. En fait, si j'accueille pas ma peine, ma tristesse, ma colère aussi, de traverser ça, mais pourquoi nous on traverse ça? Si je m'autorise pas à accueillir ces émotions, je peux pas ensuite les transformer.
Tu peux pas avancer. Bah, c'est le fameux processus du deuil. Finalement, le deuil, il existe pour évidemment le deuil d'un être cher qui décède, mais c'est aussi le deuil de la vie d'un couple, c'est le deuil de la vie professionnelle d'avant. C'est le cycle est hyper bien décrit. Et en effet, si tu n'acceptes pas tes émotions, tu restes enfermé et tu n'avances pas.
Exactement.
Ouais. Même si c'est difficile, et c'est important de se laisser transpercer par les émotions.
Tout à fait.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Ma famille, franchement, 10 000 fois, enfin c'est ce qui pour moi est ultra important. Ça veut pas dire que je suis une mère poule ou une mère hyper. Moi, je suis quelqu'un. C'est drôle de dire ça quand on est doula, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de temps seul. En bonne hypersensible, j'ai ce que j'ai plutôt découvert tard dans ma vie, mais je sens à quel point j'ai besoin de moments seuls, tu vois. Et ça, c'est pas forcément très compatible avec la vie de famille. Donc voilà, c'est un dosage à trouver. Mais clairement, pour moi, c'est ce que je construis avec Gaël, mon compagnon, depuis 20 ans, qui est hyper solide, avec tellement de confiance, de partage, de communication. Pour moi, c'est vraiment ce qui est la clé de ce qu'on co-construit tous les deux, de réussir à dire quand on est en colère, réussir à dire on n'est pas d'accord. Quand chacun on a des envies qui sont différentes et quand on a des besoins aussi qui sont différents. Mon partenaire il est hyper sportif, il fait des ultra trails, il a besoin de temps et d'espace pour respirer, et c'est venu vraiment au moment de la naissance de nos enfants. Il était pas du tout sportif avant, puis bizarrement quand on a eu des enfants il s'est mis à être sportif, et c'est quelque chose qu'on observe souvent, enfin que j'observe souvent chez les familles, ce besoin aussi d'exister chacun de son côté, tu vois. Pour moi, c'est ce respect qu'on a l'un pour l'autre, et aussi le soutien qu'on s'offre dans des coups durs qu'on peut vivre professionnellement, parce qu'il y en a toujours, dans des choses que nos filles vivent et qui sont difficiles. Je chéris ça, mais vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je dis pas qu'on se séparera jamais ou qu'il y aura, enfin voilà, j'en sais rien, honnêtement. Peut-être qu'un jour, il se passera des choses dans notre couple qui changeront. Mais en tout cas, ce qu'on a construit toutes ces années et qu'on continue de construire ensemble, c'est très, très précieux pour moi.
Tu disais du coup que tu avais découvert le fait d'être hypersensible récemment. Ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, je partage ça aussi suite au burn-out. Je me suis dit, mais en fait, en lisant un livre, je me suis dit, mais en fait, je suis hypersensible et j'ai eu plein de remontées dans ma vie. D'ailleurs, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que du coup, j'ai recensé deux tests qui permettent aux personnes de savoir si elles sont hypersensibles parce que le savoir, ça te change ta vie. Enfin, je sais pas si tu partages, ça aussi.
Complètement. Je pense que moi, je suis venue sur le chemin de l'hypersensibilité par ma deuxième fille. On a compris assez rapidement que les émotions étaient très débordantes chez elle. On l'a compris parce qu'on l'a vécu et qu'on le vivait au quotidien, du coup, dans le fait de devoir l'accompagner quand elle était toute petite, dans les pleurs, dans les émotions. Et donc, on a un peu commencé à creuser cette hypersensibilité-là sans mettre forcément de mots dessus. Et puis elle a changé d'école, donc il y a 2 ans et demi maintenant, parce que le système scolaire classique, vraiment, ne lui convenait pas du tout et elle devenait très malheureuse dans l'école où elle était. Et dans la nouvelle école où elle est, on a compris en fait à quel point le savoir-être était important et ça l'était déjà pour nous. Moi, j'étais déjà doula, on était déjà dans ces cheminements-là, mais... on a compris à quel point l'éducation avait un rôle à jouer aussi pour pouvoir se sentir à sa place, se sentir alignée, développer ses propres compétences. Donc, j'ai compris plein de choses dans le cheminement de Zélie aussi dans cette nouvelle école avec mon compagnon. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu entre les mains un livre de Fabrice Midal qui s'appelle, j'arrive pas à me souvenir du titre, Êtes-vous hypersensible, ou je me souviens plus du titre exactement. Je l'ai eu entre les mains. Et je me suis dit, mais ça c'est moi aussi. Je me suis revue, tu parlais tout à l'heure de la petite Leslie, je me suis revue petite Leslie en CP à qui on disait, mais il faut t'asseoir sur la chaise Leslie, qu'est-ce que tu fais par terre, enfin, tu peux pas être assise par terre alors que tout le monde est assis sur les chaises. Et moi je disais, bah si, mais en fait je suis mieux là, je suis mieux assise, je suis mieux installée pour crayonner, pour écrire. Et donc je sens à quel point je suis jamais rentrée dans le moule de l'école, ce cadre en fait scolaire. Et donc je pense qu'il y a une part de moi qui a des regrets entre guillemets parce que j'ai une part de moi qui dit, ah tiens, si j'avais été plus scolaire, plus voilà, certaines choses auraient été plus faciles pour moi. Et à la fois aujourd'hui, je pose un regard beaucoup plus doux sur moi-même parce que je me dis, mais en fait tu pouvais pas. Tu n'étais pas câblée, t'étais pas faite pour suivre un système scolaire, aller à la fac. Quand je me suis retrouvée pendant un mois à la fac de droit dont je te parlais tout à l'heure, mais je me disais, mais j'avais l'impression d'être sur la planète Mars. Enfin, c'était, pour moi, c'était pas possible. Donc, le fait d'accueillir ça, c'était comme une reconnaissance. J'ai lu ce bouquin et je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, j'ai le droit d'être comme je suis et d'être sensible, d'être dans cette hypersensibilité. Et c'est pas un gros mot et c'est pas grave, mais au contraire, comment valoriser
C'est ça, comment le transformer en une force, en
exactement,
fait.
C'est exactement ça. Et ça, bah, je le vis au quotidien, du coup, avec mes filles qui sont toutes les deux très différentes. Léonie, elle est très scolaire, elle aime beaucoup l'école, elle est très carrée, même si là, elle rentre dans l'adolescence, donc elle vit d'autres choses plus sensibles, mais... Zélie, elle a des apprentissages qui sont beaucoup plus dans la créativité, dans la découverte des animaux, de la nature. Voilà, elle est dans d'autres types d'apprentissages. Donc, c'est intéressant pour moi de pouvoir, dans ma vie de famille, les valoriser, elles, chacune, avec leurs compétences. Parce que je pense que moi, j'avais beaucoup de compétences petites et de savoir-être, mais finalement, qui n'ont pas su être valorisées parce que je rentrais pas dans le moule, finalement.
C'est ça. Et ça, c'est faire moi vraiment, parce que je rejoins exactement ce que tu dis, c'est que à partir du moment où tu comprends que t'es hypersensible, ça te permet de dénouer tellement de nœuds dans ta vie, et du coup de se dire, au lieu de se dire que c'est un inconvénient, c'est de se le transformer en une force. Et pareil, tu vois, je vois, c'est quelque chose que souvent il y a des personnes dans mes invités qui me disent, ah bah voilà, j'ai besoin de me retrouver seule, mais en même temps c'est des personnes qui sont comme toi, qui sont énormément tournées vers les autres. Et du coup j'ai moi je partage aussi ce truc là personnellement. Et du coup, j'ai pas mal creusé sur ce sujet. Et en effet, c'est vraiment un des symptômes, entre guillemets, de quand t'es hypersensible, ce côté de ce besoin de se retrouver seul avec soi-même, d'avoir vraiment ces moments où, on te fout la paix, si on est clair. Et ces moments où d'un besoin de sociabilité, même potentiellement plus exacerbé, d'extraversion, et ça c'est vrai que tu peux dire non mais la personne elle est duale, mais en fait non, ça fait vraiment partie de l'hypersensibilité quoi.
C'est ça. Et c'est aussi, je pense que moi j'avais un peu la vision de l'hypersensibilité de quelqu'un qui va pas supporter de toucher certaines choses, d'hypersensibilité au niveau gustatif. Enfin voilà, j'avais un peu cette idée que l'hypersensibilité, c'était voilà des gens qui étaient pas forcément très extravertis. Je pense que je me...
Oui, et puis on a l'image dans les films. Là, je vois l'autre jour, alors je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle La Flamme, c'est un espèce de remake de comment ça s'appelle du Bachelor, c'est très 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 drôle. Et t'as une nana qui est hypersensible qui se met à pleurer tout le temps, mais bon, c'est l'archétype de l'hypersensible, mais c'est aujourd'hui les hypersensibles, on en parle de plus en plus, mais vraiment j'incite toutes les personnes qui se posent la question, je vous incite à faire ce test que je vous mettrai dans le lien des notes de l'épisode parce que ça change la vie et si vous l'êtes, d'ailleurs je partage une vidéo qui m'avait été partagée par un ami qui est aussi hypersensible, celui qui s'appelle l'être à une hypersensible. Mais j'ai écouté ce truc, mais je me suis mis à pleurer. À l'époque, je l'avais partagé à mon mari en disant mais voilà pourquoi, parce que tu me dis ouais tu me fatigues avec tes hauts et tes bas, mais c'est juste que ils disent oui mais les hauts et les bas, ça fait, c'est comme si tu me demandes de mettre des lentilles vertes alors que j'ai les yeux marrons, enfin c'est juste que tu me demandes d'être une autre. Et ça ouais, c'est vraiment dans le chemin de la connaissance de soi, ça fait faire un bond de dingue malade.
Complètement, je trouve accueillir ce que tu nommes là, qui pour moi est quelque chose que je vis au quotidien, ce truc de up and down. Moi, je peux être quelqu'un qui est très heureuse, joyeuse, etc. Et puis, je peux tomber assez facilement dans oh là là, je me sens vraiment super triste aujourd'hui. Et voilà. Et le fait de l'accueillir et aussi de sentir... Ça rejoint aussi le fait d'accueillir davantage ma féminité et mon féminin. Tu vois, il y a ce côté cyclique de la femme.
Exactement ce que j'étais. Ouais, bien sûr. Et dire là, je suis chaos, mais en même temps, c'est complètement normal parce que je suis dans ma phase, dans le cycle où c'est normal. Mais clairement, ouais.
Et donc, pour moi, il y a à la fois cette hypersensibilité qui peut être liée à un tempérament hypersensible. Il y a aussi le côté cyclique du féminin qui est quand même globalement encore assez et pas forcément très accepté. Et puis, pour moi, il y a aussi une temporalité dans l'année. Ce que j'observe chez moi, c'est que moi, je suis née au mois de mars. Je ne sais pas si c'est en lien, mais moi, je suis quelqu'un qui adore le printemps, la renaissance des projets. J'ai l'impression d'éclore au mois de mars complètement, de me libérer durant l'été, à partir de voilà du mois de juin. Je sens qu'il se passe plein de choses. Et puis, là, tu vois, la rentrée dans l'automne, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Je sens que c'est difficile pour moi, que j'ai envie de rentrer dans ma grotte, j'ai un côté ours qui a envie d'aller hiberner. Et tu me dirais, tu peux dormir de septembre à février. Je te dirais, il n'y a pas de souci, salut, je vais me coucher, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, parce que j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans et que je pense que c'est un chemin de maturité et de compréhension de moi-même, je suis sans doute plus douce avec moi-même sur ça en me disant bah c'est ok Leslie, cet hiver tu vas pas lancer 48 projets, peut-être que tu peux être plus cool et te poser, mais c'est dur, ça veut dire pour moi aller un peu à l'encontre de ce que ma tête me dit de faire, tu vois, de ouais il faut, vas-y fais des projets, ouais super, et parce que je sais que ça me nourrit, ce que je te disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu trouver ce bon équilibre.
Ouais, c'est un vrai enjeu. Moi, je sais qu'il y a des jours maintenant, je me dis non mais Charlotte, ça ne sert à rien d'essayer de travailler parce qu'en fait, tu n'y arrives pas, ou sinon je fais des tâches où je sais qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais
exactement.
Et puis après, quand je suis dans ce mood-là, je regarde mon application de cycle mensuel, je fais ok, c'est normal. Non mais c'est vraiment un truc dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a changé ma vie parce que en effet, il y a des moments où je suis une machine d'idées, de productivité. Donc, je sais que quand c'est ça, j'y vais à fond. Et puis après, il y a des moments où je ralentis. Mmh. Et en effet, c'est vraiment apprendre à savoir comment chacun fonctionne pour pouvoir justement se dire, c'est OK, quoi.
C'est ça, exactement.
Se respecter, en fait. Ouais. Mmh. Si tu croises quelqu'un là qui te dit, ah, t'es doula, t'as écrit un bouquin, t'en es là uniquement grâce à de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre ?
Moi, je crois pas trop à la chance, je dois bien avouer. Je crois pas à la chance, je crois plus au fait de pousser les bonnes portes au bon moment. Je pense que oui, bien sûr, il y a sans doute des synchronicités et des choses qui se font peut-être, mais je pense que si toi tu pousses pas les portes, enfin si moi je pousse pas les portes, si je pose pas les questions, si je demande pas de l'aide au moment où j'en ai besoin, ben en fait il se passe rien. Je crois vraiment que la chance que j'ai, c'est que, tu parlais d'intuition tout à l'heure, c'est que je me fais pas mal confiance quand je fais des rencontres et que globalement, ça m'est arrivé peu de fois dans ma vie de me tromper dans les rencontres que j'ai pu faire. Et même des moments où aujourd'hui je me dis « Oh là là, c'était quand même intense ce que j'ai vécu avec telle personne », en fait, c'est des rencontres qui m'ont permis de grandir, qui m'ont toujours permis de grandir. Et c'est quel regard je pose sur ce qui m'arrive, tu vois, où je peux vraiment décortiquer et dire « Purée, ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment intense. » Et à la fois derrière, je sais que ça a transformé beaucoup de choses pour moi parce que j'ai appris, je me suis pas trompée. Je me dis jamais « Ah, je me suis trompée, j'aurais pas dû venir faire ça, c'est pas une bonne idée. » Tu vois, c'est un peu un mode de fonctionnement où je me dis « Ouais, j'ai les bonnes personnes, peut-être, mais voilà, j'ai poussé les portes et j'y étais, quoi. J'y étais avec mon courage, parfois, parce que quitter un job, c'est dur, parce que partir à l'étranger, bah, c'est pas facile quand t'as 17 ans et que tu verras plus personne pendant une année. Ouais, je pense que j'ai eu le courage aussi. J'ai eu le courage de faire des choses.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui ?
Oser expérimenter. Pour moi, c'est ça, la vie, c'est que des expériences. Et je me dis toujours, bah, si tu lances quelque chose, si tu testes quelque chose, et qu'au final, c'est pas forcément ce que tu voulais réaliser ou que ça t'amène pas là où t'aurais eu envie d'être, bah, tu l'auras vécu, t'auras expérimenté, quoi. Je veux pas du tout, pour moi, pas vivre de regrets, de me dire, ah, j'aurais dû faire ça. C'est vraiment pas ma mentalité et vraiment, j'encourage mon entourage et mes filles, mon mari, enfin voilà, à vivre ça, à aller tester, quoi.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est une bonne question. Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil ? Attends. C'est pas vraiment un conseil, je dirais que c'est plus le fait de cultiver ma confiance. C'est souvent des femmes hein, que j'ai rencontrées et qui m'ont soutenue sur mon chemin. Et elles m'ont toujours, les moments où moi j'y croyais pas trop, j'avais un peu la sensation qu'elles y croyaient pour moi et qu'elles me disaient, mais Leslie, t'es super, c'est super ce que tu fais, vas-y, bravo, franchement, top, tu peux y aller, vas-y. Et donc, cet encouragement qu'on m'a donné, je pense que ça a cultivé le fait d'oser et le fait d'oser expérimenter.
Est-ce que tu as un conseil de lecture ?
Un conseil de lecture que j'ai beaucoup aimé, bah, il y en a plusieurs. Je te parlais tout à l'heure sur l'hypersensibilité du livre de Fabrice Midal que j'ai trouvé vachement intéressant. Et il y a un autre livre dont je me souviens plus du titre, il faudrait que je le retrouve, sur les femmes multipotentielles. Je t'enverrai la référence que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Intéressant.
Qui est assez récent, ouais, qui est sorti l'année dernière, je crois.
C'est pas Marjorie, c'est pas l'équilibre du zèbre à pois.
Non, c'est pas ça. Attends, j'essaye de te retrouver en même temps. Femme, excuse-moi, je regarde en même temps. Voilà, je vais te faire du montage, je suis désolée.
T'inquiète pas.
Multipotentiel. Comment il s'appelle ce livre ? Oh là là. C'est ça, c'est Élodie Crépel.
Ouais.
Le livre auquel je pense, c'est un livre que j'ai lu récemment, plus de développement personnel du coup, qui s'appelle « Femmes atypiques » de Élodie Crépel. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que justement, il parle de faire de votre différence une force au travail. Et j'ai trouvé que c'était positif, parce que souvent, le fait d'être hypersensible, bon, il y a des femmes qui sont au potentiel, TDAH, etc., moi, je le suis pas, mais J'ai trouvé que c'était intéressant comme lecture sur le cheminement d'accueillir ce côté slasheuse. Je peux avoir envie d'avoir plusieurs vies, d'être multipotentielle, et c'est OK en fait. Je pense que j'ai détricoté personnellement le fait de me dire que pour être bien dans ma vie, il faut avoir un métier et être architecte, tu vois. Et toute ma vie, être architecte.
Rentrer dans des cases.
Voilà, ouais. Rentrer dans des cases. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bouquin assez intéressant.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
J'ai envie de dire merci, merci à ma famille qui me soutient tellement, à mon partenaire, à mes filles, qui sont là quoi, dans notre cocon, dans notre. Je suis contente en fait de vivre ça avec eux, de vivre cette belle énergie ensemble, cette co-construction ensemble dont je te parlais tout à l'heure. C'est vraiment eux que j'ai envie de remercier. Et puis moi en fait, je crois que ça fait un peu.
Mais égo. Non, mais c'est important, mais pas du tout. C'est ouais. Hyper important de se.
Ouais, c'est ça. J'assume vachement ça, avoir de la gratitude. C'est beau d'avoir de la gratitude pour les autres, pour ce que chacun offre. Je pense que dans ma vie, ce qui est une vraie qualité et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une bonne capacité à m'émerveiller. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup cultivé et que j'aime cultiver chez mes enfants, avec les gens avec qui je suis, la capacité à s'émerveiller sur la beauté de la vie, la beauté de choses qui se passent, qui peuvent être infimes et minimes, mais s'émerveiller, avoir de la gratitude, pour moi, c'est hyper important. Et donc, d'en avoir pour moi et de dire, super, là où t'en es, ce que tu construis, ce que t'offres aux familles, ce que t'offres à ta famille, voilà, pour moi, ça, c'est important.
Merci beaucoup, Leslie. Et puis, si on veut avoir plus d'informations sur tes services, je mettrai le lien, du coup, évidemment, sur le blog. On suivra avec attention la suite de tes aventures.
Merci beaucoup, Charlotte, pour ce temps précieux et intime. C'était très beau de partager avec toi.
Merci beaucoup.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!